Radio Kapi. L'avion de l'armée française qui a atterri vendredi dernier à l'aéroport de Bangboka, Kisangani, était en détresse. La précision est du ministre de la Communication et des Médias. D'après Patrick Mouyaya, il n'y a pas de matière à paniquer. Et puis, carence des magistrats à travers les provinces. Une nouvelle cartographie des magistrats est en élaboration au Conseil supérieur de la magistrature. C'est la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui l'a déclaré lundi après son audition à l'Assemblée nationale. Enfin, plusieurs assassinats des éléments de l'ordre, notamment les militaires FRDC, par des hommes porteurs d'armes, sont enregistrés dans la ville de Butembo. Comment en finir? Nous en parlons avec Anthony Mualushai, porte-parole de l'armée dans les Grands Nord. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Mais avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale a procédé ce mardi à l'installation des 16 membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Parmi les 16 membres nouvellement nommés sur ordonnance présidentielle, il y a l'ancienne journaliste de Radio Kapi, Mimi Ngumba Mulongo. Avant leur installation, le rapporteur de la Chambre basse a procédé à la lecture d'une brève biographie de chacun de ces 16 membres du CESAC. Il restait donc aux nouveaux membres du CESAC de se choisir un bureau de cette institution d'appui à la démocratie qui assure la régulation des médias en RDC. Atterrissage en catastrophe d'un avion de l'armée française vendredi dernier à l'aéroport de Bangboka à Kisangani dans la province de la Tchopo. Le ministre de la Communication et des Médias a affirmé que, contrairement à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux dans les contextes sécuritaires actuels dans l'est de la RDC, cet avion a atterri en détresse. Patrick Mouyaya l'a dit hier mardi au cours d'un briefing de presse diffusé en direct sur la chaîne nationale RTNC. Il rassure l'opinion congolaise que l'avion a été inspecté par les services de la DGM et qu'il n'y a pas de matière à paniquer. On écoute Patrick Mouyaya dans cet extrait proposé par Alain Irung.
J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions au sujet de l'avion français qui a atterri à l'aéroport de Bangoka. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menaçait de prendre feu, donc la température était élevée anormalement. C'était les vendredis derniers et donc l'aéroport le plus proche où ils avaient demandé à atterrir, c'est à l'aéroport de Bangoka à Kisangani. L'avion comptait 9 membres d'équipage qui venaient, je pense, de l'île de Réunion, qui devaient passer par Bujumbura à Pujamena. C'était un vol de routine d'après les rapports qui a été fait. L'avion a été, disons, fouillé ou inspecté par le service, notamment de la DGM. Il y avait 9 passagers, 4 membres d'équipage et 5 autres pilotes qui devaient relayer d'autres dans la destination finale et qu'il n'y a pas de matière à panique. L'avion est en panne, ils attendent une intervention qui doit venir de Paris avec les matériels pour remplacer le matériel défectueux. Et d'ailleurs, nos forces armées ont pris en charge les membres d'équipage, notamment en leur offrant de rester dans des hôtels.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, plusieurs localités sur l'axe Kiwanja-Ishasha, dans le groupement Binza, en territoire de Rutshuru, s'est vidé de leurs habitants depuis dimanche dernier. Cet exode intervient après l'occupation par les rebelles du M23 des localités de Katwigu, Kiseguru et Makoka, situées à environ 20 km de Kiwanja. C'est sur la route qui mène vers Nyamilima, la frontière d'Ishasha, selon nos sources dans la zone. Ces récents affrontements entre les forces loyalistes et les M23 ont de nouveau déversé la population dans la rue, déjà en errance, qui craint les hostilités dans cette zone où sévissent plusieurs groupes armés locaux et étrangers, notamment les FDLR. Bernardine Diambo.
C'est depuis dimanche dernier que ce mouvement massif de population est observé sur l'axe Kiwanja-Nyamilima. Il intervient au lendemain des combats qui ont opposé l'armée régulière au M23 autour de Ngwenda. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans les agglomérations de Kisharo, Katwiguru, Makoka et Kiseguru. C'est la panique qui règne dans la zone. Les jeunes, femmes et enfants ont décidé de quitter de nouveau leurs habitations pour se mettre à l'abri. Certains se sont dirigés vers Nyamilima tandis que d'autres ont prolongé jusqu'à la frontière d'Ishasha. Nos sources précisent que certains déplacés auraient déjà traversé la frontière Ishasha vers l'Ouganda. La société civile déplore au passage quelques cas de pillage orchestrés par les rebelles du M23 à Katwiguru après son occupation dimanche dernier. Ces rebelles auraient aussi largué une bombe qui a endommagé quelques maisons. Nos sources ajoutent que la situation est restée calme ce mardi sur cet axe où on a toujours déploré la recrudescence de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Goma, Bernardine Diambo, Radio Kapi.
Et puis, nous venons de l'apprendre dans la province du Kasaï oriental. Plus de 100 ménages enfouis depuis dimanche, les villages de Lembalemba dans le groupement de Bakwalongi, à plus ou moins 30 km de Kenakuna dans le territoire de Kabeyakamwanga, suite aux affrontements qui ont causé l'incendie d'une vingtaine de maisons. L'administrateur des territoires de Kabeyakamwanga assistant parle d'un conflit de pouvoir coutumier entre les membres d'une même famille. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les affrontements ont eu lieu dimanche soir pendant la réunion de réconciliation entre les membres de la famille régnante, affirment les sources sur place. Deux membres de la famille régnante se disputent la gestion du groupement pendant la période d'absence du chef de cette entité, empêché momentanément. Le chef désigné depuis quelques mois a été désavoué par la population de ce groupement suite à son comportement jugé non humaniste. Le pardon sollicité au cours de la réunion de réconciliation ne lui a pas permis de poursuivre la gestion du groupement. C'est ainsi que ses sympathisants ont créé les troubles pour empêcher son remplacement par un autre membre de la famille régnante. Au cours de ces affrontements, une vingtaine de maisons ont été incendiées. Plus de 100 ménages ont fui cette localité et se sont réfugiés dans les localités de Dibula 1 et 2 et Chimbulumba. D'autres déplacés sont actuellement dans le village de Chinchanko, à Bakwachimini et en Patou. Contacté, l'administrateur de territoire assistant affirme qu'un calme précaire règne car quelques éléments de la police du lac Munkamba et de Kenankuna ont été déployés sur place. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Autre nouvelle, recrudescence des cas de banditisme dans la ville de Kalemie. En l'espace d'une semaine, une dizaine de cas de cambriolage sont enregistrés. Le dernier cas en date s'est produit dans la nuit de lundi à hier mardi. D'après le chef adjoint du quartier Kaïté à Kalemie, des bandits avec des armes blanches ont visité quelques maisons. Et au quartier Kitoukou, une femme a même été blessée par balle dans la soirée de ce lundi. Les détails avec Paulin Munanga.
Plusieurs sources concordantes renseignent que des bandits portant souvent des armes blanches sèment la terreur dans la ville de Kalemie ces derniers temps. Ils agressent les gens et volent argent, téléphones, appareils électroménagers et autres biens de valeur. Dans la nuit de lundi à mardi, le chef adjoint du quartier Kaïté signale que des bandits ont visité quatre maisons et ont pris de l'argent et d'autres biens. Et dans la soirée de ce lundi au quartier Kitoukou, une femme a reçu une balle dans sa jambe droite, annonce des témoins. Des bandits armés ont investi sa maison. Dans la nuit de lundi à mardi 15 novembre dernier, plusieurs maisons dans différents quartiers de la ville de Kalemie ont été attaquées. Un infirmier habitant le quartier Kankomba a été aussi victime d'un cambriolage. Des témoins annoncent aussi que dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, une maison a été visitée au quartier Kitoukou. Contacté à ce sujet, le commissaire provincial de la police du Tanganyika rassure que la police traque régulièrement ces inciviques. Pour le commissaire divisionnaire adjoint Jean Yav, la quiétude règne à Kalemie, excepté les deux derniers jours où il y a eu des cas de cambriolage. Kalemie, Paulin Munanga, Radio Kapi.
Alors, pourquoi le banditisme urbain ou phénomène Kuluna a pris de l'ampleur à Bandundu et ailleurs dans la province du Kwilu? Qui sont ces assaillants armés arrêtés dans les territoires de Bagata? Sont-ils jugés ou pas? Et pourquoi les forces déployées sur terrain accusent-elles des problèmes logistiques? Et enfin, quelles sont les dispositions prises pour lutter contre cette insécurité dans le Kwilu? Telles sont entre autres les questions auxquelles devrait répondre le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Claude Bouanganga, à qui une question orale avec débat a été adressée par le député Mindandambuta. Il devait aussi s'expliquer sur le détournement présumé de fonds alloués aux déplacés de Kwamout. Jean-Claude Bouanganga a été lundi 21 novembre à l'Assemblée provinciale et a sollicité 72 heures pour répondre aux questions supplémentaires. Des explications avec Irène Mbouma.
Devant les élites du peuple pour répondre à leurs préoccupations sur l'insécurité qui prévaut dans la province du Kwilu, le ministre provincial de l'Intérieur a notamment évoqué plusieurs difficultés auxquelles est confronté son service pour sécuriser la population. S'agissant du présumé détournement des biens destinés aux déplacés, rien n'atteste cela, a déclaré Jean-Claude Bouanganga.
Pour l'instant, il n'y a aucune évidence qu'il y a eu détournement de biens des déplacés. Le bataillon que nous avons ici, c'est un bataillon qui intervient aussi dans le Kwamout. Donc, nous n'avions que notre police. C'est tout à fait évident que nos forces, à un moment donné, soient débordées. La sécurité abandonne nos villes. Nous avons fait en sorte qu'il y ait des patrouilles mixtes PNC et FARDC. La difficulté que nous avons pour assurer la sécurité de la province, place, c'est le déploiement de nos forces de sécurité qui ne permet pas de couvrir correctement les zones à sécuriser.
Les députés initiateurs de cette question orale avec débat, Mindandambuta, estiment qu'il y a encore plusieurs zones d'ombre. Les patrons de l'intérieur devraient retourner devant les députés dans septembre heures.
Qu'ils viennent dire à la population pourquoi l'insécurité, donc beaucoup de matières.
Notez que plusieurs conflits fonciers et coutumiers ainsi que des cas de tracasserie routière à l'intérieur du Kwilu ont été relevés au cours de cette plénière. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis, justice, une nouvelle cartographie des magistrats est en élaboration au Conseil supérieur de la magistrature pour pallier la carence des magistrats à travers les provinces. C'est la ministre de la Justice qui l'a déclaré lundi après son audition à l'Assemblée nationale par la Commission des droits de l'homme. Parmi les points qu'elle a abordés figure notamment la question des manques des tribunaux de paix et le respect des droits de l'homme exigés aux magistrats. On écoute Rose Mutombo dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Il y a eu aussi le problème de manque des magistrats dans les différentes provinces et que avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature, nous avons déjà échangé là-dessus. Une nouvelle cartographie de magistrats est en train de s'élaborer actuellement et qu'on va tenir compte de la représentation de magistrats dans tout le coin de la RDC. Un autre point qu'on a eu abordé, le manque des tribunaux de paix. Heureusement, pour 145 territoires, on a droit à 145 tribunaux de paix et que cela va approcher les justiciables de tribunaux et que c'est un processus. Je crois l'année prochaine, on pourra répondre à beaucoup des préoccupations des honorables députés sur terrain puisqu'on aura quand même des bâtiments construits. Un autre élément, c'est par rapport aux violations et aux comportements des magistrats. Je crois l'option a été levée et le président de la République a eu à en parler au Conseil des ministres. Nous ne cessons d'interpeller les responsables du pouvoir judiciaire pour que les droits humains soient respectés.
Autre nouvelle, le désordre au parti présidentiel UDPS où Victor Wakwenda, président de la Convention démocratique du parti, a été mis en liberté provisoire au terme de sa comparution en chambre de conseil devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete à la prison centrale de Makala ce mardi 22 novembre. Il y était détenu lundi par le parquet qui l'accuse de propagation de faux bruits et d'incitation à la désobéissance civile. D'après nos sources du parquet, cette liberté est due à son état de santé, mais l'instruction va se poursuivre. Wakwenda et Augustin Kabuya se sont réciproquement démis de leurs fonctions et cela a suscité des vives tensions entre les partisans la semaine dernière. Jeff Ngoy.
Des échauffourées ont éclaté à la permanence du parti de Félix Tshisekedi le jeudi dernier dans l'après-midi. Les militants de ce parti ont brûlé des pneus et barricadé les voies d'accès à la permanence pour empêcher Augustin Kabuya d'y accéder. À la base, le conflit opposant le secrétaire général et le président de la CDP, Victor Wakwenda. Mais les militants manifestaient aussi leur colère à la suite des nominations de nouveaux mandataires des entreprises du portefeuille de l'État où ils ne se sont pas retrouvés et se disent fatigués du chômage. Le parti est submergé par des problèmes, des antagonismes inter-individuels. Cela intervient une semaine après que Wakwenda a déchiré Kabuya et que ce dernier l'a aussi démis via la commission de discipline. C'est du théâtre indigne pour un parti au pouvoir, d'après certains usagers du boulevard, bloqué dans les embouteillages plusieurs heures à cause justement de l'UDPS ce jeudi-là.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Les travaux de réhabilitation de la route Kimwenza-Mission se poursuivent dans la commune de Mongafula, ici à Kinshasa, malgré les intenses pluies qui s'abattent sur la ville ces derniers temps. Les ravins de Zaré, Saïsaï et celui communément appelé 7 km n'existent plus. Les riverains sont satisfaits du travail réalisé. Ils souhaitent toutefois une accélération du rythme. Reportage, Innocent Fadili.
Les travaux de cette route qui va de l'avenue Bypass jusqu'à Kimwenza, en passant par Lunikin et Kindele, se poursuivent. À l'arrêt communément appelé 7 km et celui dit Saïsaï, les ravins sont remblés. Les caniveaux nouvellement construits évacuent déjà les eaux jusqu'au collecteur. La construction des gradins est quasi achevée. Les riverains sont satisfaits.
Dès lors qu'ils ont stabilisé, c'est-à-dire qu'ils ont construit les caniveaux et que les eaux sont dirigées directement vers les collecteurs, en tout cas, la route est stable pour le moment. Nous pensons que avec cette stratégie, ils pourront maintenant continuer les travaux à l'aise.
De son côté, le père Jean Mboma de l'université Loyola, chargé de l'animation communautaire pour ces travaux, appelle les riverains à la prise de conscience.
Nous subissons en fait les conséquences immédiates du bon état ou du mauvais état de cette route. En nous engageant à trouver les moyens qui limitent les érosions. Comment couvrir les sols, comment éviter en fait de boucher les caniveaux. Donc tout ça c'est notre responsabilité, que nous devenions en fait une population responsable.
Notons que ces travaux sont réalisés par l'entreprise chinoise de construction SZTC sous la supervision de l'OVD. Ils ont été perturbés au début de cette saison des pluies.
Actualité internationale.
Un travailleur humanitaire de l'ONG française Solidarité Internationale a été tué dans une embuscade par un groupe armé dans le nord du Mozambique, frappé par des violences djihadistes depuis plus de 5 ans, a-t-on appris ce mardi auprès de l'organisation. Et puis la péninsule ukrainienne de Crimée, contrôlée par la Russie, a été visée par une attaque de drones ce mardi. Les forces russes sur place étant en alerte, ont indiqué les autorités installées par le Kremlin.
L'invité.
Au Nord Kivu, la situation sécuritaire dans la ville de Butembo reste confuse. Plusieurs assassinats des éléments de l'ordre, notamment les militaires FRDC, par des hommes porteurs d'armes sont enregistrés. Quelle lecture l'armée fait de cette situation et quels mécanismes sont mis en place pour que cela n'arrive plus? Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le porte-parole des opérations militaires dans la partie grand nord de la province. Le capitaine Anthony Mwalushai s'entretient ici avec Marc Marofimbo. Suivez.
Capitaine Anthony Mwalushai, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La situation sécuritaire semble être confuse dans la ville de Butembo. Le fait que les canons des groupes armés commencent à être tournés contre les militaires, on a risqué même des morts de la part des non-militaires FARDC. Comment, au niveau de l'armée, vous expliquez cette situation?
Cette situation s'explique du fait que la ville de Butembo a été infiltrée par non seulement les terroristes ADF-MTM, depuis la série des manifestations contre l'état de siège, contre la MONUSCO, et l'ennemi avait déjà eu à infiltrer la manifestation et aussi la ville grâce à ses multiples collaborations avec les Maïmaï Baraka qui sont dans les périphéries de Butembo et aussi les résidus des Kiandenga qui se sont déversés dans la ville de Butembo. N'oubliez pas que le leader de ces mouvements, donc Kiandenga, a été arrêté en pleine ville de Butembo, en train de faire des réunions de planification d'autres opérations contre les services de sécurité. Mais qu'à cela ne tienne, retenez que la situation sécuritaire dans la ville de Butembo montrait déjà des étincelles depuis les années. Nous pouvons aller même depuis 1998. Rappelez-vous qu'il y avait un commandant qui avait bouclé cette ville pendant 4 jours. 24 heures sur 24, il n'y avait personne qui marchait, qui sortait sur la ville et on lui a créé des problèmes. Donc, nous avons des jeunes qui sont manipulables facilement par certains leaders en mal de positionnement sur le plan politique et aussi par certains commerçants qui ne veulent pas payer les impôts et qui veulent que tout se passe comme ça. Et c'est ça la vérité. Cette situation a été longtemps discutée dans des hauts niveaux, mais nous pensons qu'il est vraiment grand temps que nous puissions renforcer les dispositifs sécuritaires dans la ville pour imposer la paix. Parce que l'intention de l'ennemi est que Beni et Butembo soient ingouvernables et que l'ennemi s'étaille vraiment une zone où l'ennemi peut faire n'importe quoi. Donc c'est ce que nous sommes en train d'éliter pour que et cela n'arrive pas.
Dans 2 mois déjà, au moins 2 militaires FARDC tués dans des circonstances pareilles. Vous ne trouvez pas que déjà les marins civilo-militaires semblent être sur une pente glissante, mais surtout les tissus de cette relation commencent déjà à se déchaîner?
C'est ça l'objectif de l'ennemi, mais nous n'allons pas céder. Et s'il y a des divergences, s'il y a des brebis galeuses au sein de l'armée, s'il y a des jeunes gens qui se comportent mal, nous devons nous mettre ensemble à travers des structures comme de la société civile et autres pour discuter. Mais prendre les armes, commencer à s'attaquer aux forces de l'ordre, ça c'est inacceptable. Nous avons déjà comptabilisé plus de 8. N'oubliez pas que c'est dans cette ville où on a tué 5 policiers, y compris les commandants de la police, et où on a récupéré un arsenal d'armement, où on a incendié le véhicule militaire en pleine ville. N'oubliez pas que c'est dans cette ville où les agents des renseignements de l'ANR ont été exécutés N'oubliez pas toujours que c'est dans cette ville où on a brûlé vif un militaire et on l'a décapité. Et pas plus tard que 48 heures, on a décapité un autre militaire. On a suspendu sa tête sur la place publique. Ça, c'est vraiment un message. Et nous avons compris que dans cette population de Butembo, il y a vraiment des infiltrés et qu'il faut à tout prix mettre hors d'état de nuire.
Vous pensez qu'ensemble avec les leaders communautaires, comment vous allez mettre en place des mécanismes afin que cette situation puisse prendre fin et surtout le mariage civilo-militaire qui a déjà commencé à produire ses fruits puisse se pérenniser?
Nous sommes sûrs et certains que ça va aller parce que l'effort que nous le déployons sur tous les plans. Sur le plan approche, dialogue, nous avons un plan qui vise à contacter certains responsables religieux, certains leaders de la société civile, certains responsables de jeunes pour les faire comprendre notre mission et pour les faire comprendre ce que l'ennemi veut, surtout dans cette ville. C'est vraiment une ville stratégique pour l'ennemi et pour nous, et nous ne pouvons pas céder aux caprices et aux manipulations.
Capitaine Anthony Machaï, merci.
Voilà, mesdames et messieurs, fin de cette édition du journal. Mise en onde de Mimi Kindou. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République, sous la coordination de Richard Junior Kamunga et la supervision d'Alain Irung Mouchinge. Merci également à vous pour votre particulière attention.